Au-delà de notre système solaire, il existe des planètes qui gravitent autour d'autres étoiles. On les appelle des exoplanètes. Exoplanètes parce qu'elles sont en dehors du système solaire. Comme vous pouvez l'imaginer, il est vraiment difficile de les détecter parce qu'elles sont très loin de nous. Et pourtant, régulièrement, les astronomes nous annoncent qu'ils ont découvert de nouvelles exoplanètes. Il y a même une étude récente qui suggère que parmi toutes les exoplanètes qui doivent exister dans notre galaxie, il pourrait y en avoir 20 milliards susceptibles d'avoir de l'eau liquide à leur surface et donc d'offrir un environnement potentiellement intéressant pour la vie. Vous vous rendez compte ? 20 milliards ? Eh bien, si on veut étudier les critères de l'habitabilité d'une planète, on va s'intéresser à 4 critères qui doivent être réunis pour que cette étude soit un succès. Le premier critère, c'est que la planète soit à la bonne distance de l'étoile. Alors, en réalité, l'image que vous avez à l'écran est un dessin d'exoplanète. Parce qu'elles sont beaucoup trop loin, on ne peut pas voir ce niveau de détail. Mais ce que l'artiste a voulu représenter, c'est une planète dans la zone d'habitabilité de l'étoile, c'est-à-dire à la surface de laquelle la température serait la bonne pour que l'eau puisse subsister à l'état liquide pendant un temps assez long. Plus proche de nous, dans le système solaire, il y a aussi des planètes qui peuvent nous renseigner sur l'habitabilité. Alors bien sûr, aujourd'hui, à notre connaissance, il n'y en a qu'une qui soit habitable et habitée, c'est la Terre, puisque nous sommes là. Et les autres candidats sont rares. Mars, qui selon les modèles se trouve ou non dans la zone d'habitabilité, et puis des satellites, des planètes géantes comme Europe autour de Jupiter et Encelade autour de Saturne. Là, ce sont les forces de marée qui compensent le manque d'énergie solaire. Je vais vous parler de Mars et de la mission Curiosity, qui récemment a établi qu'un jour, cette planète a réuni les critères de l'habitabilité. Curiosity a atterri sur Mars en août 2012. L'animation que vous voyez vous montre l'entrée dans l'atmosphère, la descente et l'atterrissage, qui en réalité dure 7 minutes. 7 minutes de terreur où la chorégraphie doit s'exécuter de façon parfaite, avec très peu de marge d'erreur. Tout est préprogrammé. On utilise d'abord un bouclier thermique, puis un parachute pour freiner, puis des rétrofusées, puis un système de grue pour poser cet engin de 900 kg avec précision et avec douceur à la surface de Mars. La précision de l'atterrissage est de quelques kilomètres, alors qu'on vient de parcourir des centaines de millions de kilomètres entre la Terre et Mars pendant 9 mois. Incroyable, non ? Curiosity est une mission de la NASA, pilotée par le Jet Propulsion Laboratory, l'université de Caltech en Californie, avec plusieurs collaborations internationales. Il a fallu 5 ans pour le construire. Et Curiosity nous renvoie tous les jours de nouvelles images de Mars. À partir de maintenant, je vais vous montrer de vraies photos, comme celle-ci. Alors, bien sûr, à l'œil du néophyte, toutes les images de Mars se ressemblent. Or, que voyons-nous ? Que voyez-vous ? On voit des cailloux, on voit du sable. Bref, Mars est un désert. Un désert très sec, même si on le compare au désert terrestre. Mais alors, n'y a-t-il pas une contradiction avec ce que je viens de vous dire ? Que Mars était une planète intéressante pour étudier l'habitabilité, que la planète est à la bonne distance du Soleil pour avoir de l'eau liquide ? Vous voyez de l'eau liquide, vous ? C'est une question d'atmosphère. Aujourd'hui, l'atmosphère de Mars est tellement ténue que vous ne pouvez pas avoir d'eau liquide à sa surface. On trouve bien de la glace dans le sous-sol, près des pôles. On trouverait peut-être de l'eau liquide à grande profondeur, mais à la surface, aujourd'hui, on a un désert. En même temps, je suis sûr que vous avez déjà entendu dans les nouvelles des chercheurs annoncer qu'on avait trouvé la preuve qu'il y avait eu de l'eau liquide à la surface de Mars. Et effectivement, dans le passé, il y en a eu. Donc, mon deuxième critère de l'habitabilité, après la distance, ça va être le temps. l'époque géologique. Il faut être à la bonne époque pour avoir la bonne atmosphère qui permet d'avoir de l'eau liquide à la surface de la planète. Je vous explique. Quand les planètes se forment, au départ, elles sont extrêmement chaudes, comme le suggère le dessin sur votre gauche. Dans le cas du système solaire, c'était il y a 4,6 milliards d'années. Ensuite, vous pouvez imaginer les planètes comme étant des machines thermiques qui se refroidissent au cours de leur histoire. Si bien qu'à un moment, pour certaines d'entre elles, la température peut être adéquate et l'atmosphère peut être adéquate pour avoir de l'eau liquide à sa surface. C'était le cas pour la Terre et pour Mars il y a un peu plus de 4 milliards d'années. C'est ce qu'on voit sur le dessin du milieu. Et on a accumulé, avec l'exploration spatiale, de nombreuses preuves qu'effectivement, il y a eu de l'eau sur Mars. Alors bien sûr, au début de l'exploration spatiale dans les années 60, on a tué le mythe du Martien en révélant une planète désertique. Mais très rapidement après, dans les années 70, les images qui nous revenaient de Mars montraient des canyons qui ressemblaient à des lits de rivières asséchées. Et plus récemment encore, les différentes missions nous ont montré que les minéraux qui forment les roches, certains de ces minéraux, se forment en présence d'eau. Nous sommes donc convaincus qu'effectivement, dans un passé lointain, Mars a eu de l'eau liquide à sa surface. Et puis la planète a continué à évoluer, avec beaucoup de volcanisme. Son histoire a divergé de celle de la Terre, parce qu'elle est plus petite, pour finalement aboutir à cette photo que vous avez sur votre droite, qui montre une planète avec des volcans géants, éteints, des canyons immenses et de grandes étendues désertiques. Alors pourquoi s'intéresse-t-on à cette planète ? Eh bien précisément parce que, à un moment de son histoire, il y a eu de l'eau à la surface de Mars en même temps qu'il y en avait à la surface de la Terre. Et à cette époque, il y a 3-4 milliards d'années, la vie est apparue sur Terre. On sait très peu de choses sur cette partie de notre histoire. Mais forcément, on se pose des questions. Est-ce que c'est un phénomène unique à la Terre ? Quelles devraient être les conditions pour que ça se produise ailleurs ? Et c'est pour ça que lorsqu'on étudie l'habitabilité sur une autre planète, il faut étudier la bonne époque, l'époque où il y avait de l'eau liquide dans son évolution, dans son histoire. Curiosity, comme les autres missions, nous a apporté son lot de preuves qu'il y a eu de l'eau liquide sur son site d'atterrissage. Et je dois vous avouer que la première fois que j'ai vu cette photo, je travaillais alors en Californie, on était en horaire martien, c'est une expérience un peu bizarre. La première fois que j'ai vu cette photo, j'ai cru que c'était un gag. Ça aurait très bien pu être un trottoir après un séisme, quelque chose comme ça. Mais en réalité, toute l'équipe était émerveillée par cette image qui venait de Mars et qui nous montrait un conglomérat, c'est-à-dire une roche qui est formée de fragments de roches qui ont été transportés là et cimentés ensemble. Et ce qui est remarquable à l'œil du géologue, c'est que ces fragments de roches sont arrondis. Un petit peu comme des galets, si vous voulez, des petits galets qu'on trouverait au fond d'une rivière. Et les géologues sont même capables, avec la forme de ces rochers, de calculer la quantité d'eau qui est passée par là et de vous dire que là, il y a eu une rivière avec une profondeur un peu inférieure à un mètre. Alors évidemment, on n'avait pas choisi le site d'atterrissage par hasard. Mais cette image révélait de façon éclatante qu'on avait atterri dans ce qui, un jour, a été le delta d'une rivière qui coulait là il y a plusieurs milliards d'années. Tenez, je vous montre cette autre image, une autre roche photographiée par Curiosity un peu plus loin. Cette roche plate s'est aussi formée en présence d'eau. En réalité, il y en avait déjà sur la première photo que je vous ai montrée, celle où on a parlé de désert. C'est une roche sédimentaire, c'est-à-dire qu'elle est formée de tout petits fragments qui ont été transportés par le vent ou par les rivières, et qui, dans ce cas-là, se sont déposés au fond d'un lac pour former cette roche. Et puis l'eau a continué à couler à travers les fractures de la roche, comme en témoigne la petite veine claire qui se situe au milieu du caillou. Et Curiosity est capable de mesurer la composition de ces roches avec plusieurs instruments. Par exemple, ChemCam, l'instrument avec lequel je travaille, utilise un laser, va tirer sur la roche, ça va faire une petite étincelle. Et pour faire simple, La couleur de l'étincelle nous dit les éléments chimiques qui sont dans la roche. Et donc, je peux vous dire que la composition de la veine est différente de la composition de la roche et que cette veine est riche en soufre. Alors, c'est un élément intéressant si je m'intéresse à la vie. Il y en a d'autres, comme le carbone, l'azote, l'oxygène, le phosphore. En réalité, la composition des roches va nous permettre de savoir dans quelles conditions elle s'est formée. Et au-delà, quel était l'environnement de cette région sur Mars quand cette roche s'est formée? Quelle était la température? Est-ce que l'eau était acide? Est-ce que l'atmosphère était oxydante? Quels étaient les éléments chimiques qui étaient présents? Y avait-il ceux qui sont utiles à la vie? Pour répondre à toutes ces questions, il va falloir que j'utilise tous les instruments de Curiosity, parce que ça forme mon troisième critère de l'habitabilité. Il ne suffit pas d'être à la bonne distance de l'étoile et d'être à la bonne époque pour avoir de l'eau liquide, il faut aussi que j'ai l'environnement chimique qui soit accueillant, disons, pour la vie. Et si possible, que ça perdure assez longtemps, car il va falloir du temps à la vie pour évoluer. Alors voilà Curiosity dans son lac, asséché depuis un certain temps. On a appelé cette région la baie de Yellowknife. C'est une vraie photo, un selfie, un de plus. Curiosity fait un peu plus de 2 mètres de large, il est un peu plus grand que moi. Il est équipé d'une dizaine d'instruments, dont 2 instruments franco-américains, ChemCam et SAM, qui tous les deux mesurent la composition des roches. ChemCam, c'est ce laser dont je vous ai parlé, on voit son télescope en haut du mât. Il va dresser un espèce de panorama chimique autour du robot. Et SAM, lui, va être capable de faire une mesure très fine de la composition quand on fait un prélèvement de roche. Eh bien, depuis l'atterrissage, des centaines de chercheurs et d'ingénieurs se relaient quotidiennement pour opérer, pour faire fonctionner Curiosity à la surface de Mars. À la fin de sa journée, le robot renvoie toutes ses observations vers la Terre via un satellite relais. L'équipe internationale s'en saisit, en discute et décide de ce qu'il convient de faire le lendemain, du plan d'activité. Est-ce qu'on va faire une nouvelle mesure? Est-ce qu'on va déplacer le robot? On programme alors l'ordinateur de bord qui va exécuter ce programme automatiquement le jour suivant et ainsi de suite. C'est un exemple assez formidable et assez abouti de travail collaboratif et j'ai la chance, avec quelques collègues, l'aide du CNES, d'y participer depuis ici, à Toulouse. Curiosity est aussi équipé d'une petite perceuse, d'une petite foreuse. Je vais faire un zoom sur cette photo. On peut voir le trou qui a été creusé dans la roche, qui se révèle être une argile, donc une roche qui s'est formée en présence d'eau aussi. Et on remarque que la poudre de cette roche a une couleur différente, elle est grisâtre, elle est différente de la couleur de la surface martienne qui est rouge. On peut voir aussi les marques que le laser a laissées en échantillonnant cette poudre de roche. Eh bien, en réunissant tous les résultats de tous ces instruments et le savoir de tous ces chercheurs impliqués sur ce projet, on est arrivé à la conclusion que cette région de Mars, lorsque ces roches se sont formées, il y a plusieurs milliards d'années, réunissait les conditions de l'habitabilité. À savoir qu'on a eu un épisode avec un ou plusieurs épisodes avec de l'eau, peut-être pendant quelques dizaines de milliers d'années, que cette eau était douce, pH neutre, salinité faible, et qu'on avait les éléments chimiques qui auraient pu être utiles à une vie microscopique si elle avait été là. À cette dernière question, on ne sait pas répondre. Habitabilité ne veut pas dire habiter. Donc on ne sait pas, on n'a pas les éléments pour dire s'il y a eu la vie ou pas. Mais on a les éléments pour dire que l'environnement était favorable, était compatible. Alors avouez tout de même que Mars nous apparaît un petit peu moins désertique. C'est formidable, non? Prenons un peu de hauteur avec cette photo. C'est une photo qui est prise par un satellite qui tourne en orbite autour de Mars, d'une région qui est un petit peu plus au sud que celle que je viens de vous montrer, qui s'appelle The Kimberley. Et Curiosity s'est arrêté là aussi, on peut le voir d'ailleurs sur la photo, il est là. Et peut-être que vous voyez aussi les traces que ces roues ont laissées dans le sable pour arriver dans ce coin. Et donc on continue notre mission de géologue, d'essayer de comprendre comment fonctionne la planète Mars. Et aussi on continue à s'interroger sur l'habitabilité. D'ailleurs, je vous avais annoncé un quatrième critère qui est utile, intéressant, lorsqu'on veut étudier l'habitabilité. Et aussi on pourrait s'interroger pourquoi on s'est arrêté à cet endroit-là pour faire un nouveau forage, et pourquoi pas ailleurs ? Eh bien, vous l'aurez compris, l'information que nous recherchons est enregistrée dans la roche. Alors, c'est un enregistrement solide, mais sur les échelles de temps que nous considérons, cette information peut très bien disparaître. Et c'est ce qui se passe sur Terre, qui est une planète géologiquement très dynamique. Donc, j'ai cette information dans ma roche, et il faut que je la protège. Et généralement, ça se passe en recouvrant cette couche de roche intéressante par une autre couche de roche ou par du sable. Mais ensuite, il faut après que je redécouvre cette information quand je fais mon exploration. Et donc, soit vous êtes capable de creuser assez profond, vous faites de l'archéologie en quelque sorte, soit vous laissez faire l'érosion. Et c'est ce qui se passe ici. Le vent a soufflé pendant des millions d'années et a mis à jour des monticules de roches du sous-sol, qui font 5 mètres de haut, les trois monticules que vous pouvez voir, qui sont donc des roches qui se sont formées il y a des milliards d'années et qui donc nous informent sur comment était Mars à cette époque-là. Alors voilà, pour conclure, pendant que vous contemplez ce panorama qui nous montre la richesse du site exploré par Curiosity, je voulais juste vous faire toucher du doigt la quête de l'habitabilité. Être à la bonne distance de l'étoile, être à la bonne époque, avoir le bon environnement et avoir préservé l'information. Si vous vouliez vous intéresser à la vie, il faudra en plus laisser le temps, lorsque vous avez les conditions favorables, à cette vie d'évoluer. On n'en est pas là encore aujourd'hui, mais tout un pan de la recherche continue à se développer, à se poser ces questions, c'est l'exobiologie. Je voudrais que vous réalisiez, d'une part, la multitude des options qui nous est offerte par toutes ces planètes, et d'autre part, la beauté de la Terre, qui est habitable. Tout ce qui nous est accessible par l'esprit est la finitude du cosmos accessible à l'humanité. Alors, me direz-vous, à quoi ça sert ? Ben oui, on me pose très souvent cette question, à quoi ça sert ? Et je vous réponds, à rien. Oui, parce que si la question c'est de savoir si ça va rapporter de l'argent et changer mon quotidien, dans l'immédiat, non. Cependant, souvenez-vous de la leçon que nous a léguée Raymond Devos. Rien n'est pas rien. Il avait démontré qu'on pouvait obtenir quelque chose avec rien en le multipliant. Il disait, une fois rien, c'est rien. Deux fois rien, ce n'est pas grand-chose. Mais trois fois rien, on peut déjà obtenir quelque chose avec trois fois rien, n'est-ce pas ? Eh bien, la recherche, c'est exactement ça. La recherche fondamentale, c'est accumuler ces petits riens qui font notre connaissance, un savoir partagé. Alors bien sûr, au détour d'un projet comme celui-là, on améliore aussi notre technologie. Mais surtout, on exerce notre capacité de réfléchir, qui est notre atout. On mobilise nos connaissances pour comprendre des phénomènes complexes. Alors, mesdames et messieurs, je vous en prie, continuez à vous enivrer de curiosité.